Ah oui, ça c'est de l'archive, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, l'autre voix qu'on entend, c'est celle de Jonathan Pee, ouais. Donc Paul Servaz, le frère de Catherine Servaz.
Une petite réaction à cette archive.
Oui, oui, mais c'est magnifique, parce qu'on se rend simplement compte que pendant le début de ces années 80, nous avons eu plein de péripéties. Rappelons, nous ne sommes pas tolérés au départ, nous sommes ensuite tolérés, mais à des fréquences ridicules. Nous avons effectivement des ennemis dans la place, ennemis aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et de respect, la LO, parce que, voilà, pas OK sur la vision, leur vision de radio. Nous avons effectivement les hommes et les femmes politiques qui ne sont pas tout à fait en phase et qui ne se rendent pas bien compte et qui sont d'ailleurs dépassés par les événements. Je rappelle aussi qu'à ce moment-là, à Paris, dans ces années-là, il y a une extraordinaire manifestation qui réunit 500 000 personnes avec Dalida comme porte-drapeau parce que Énergie a été empêchée d'émettre ou en tout cas étouffée dans ses émissions. Et donc je rappelle juste à tous ceux qui n'ont pas pu connaître cela que le début de cette aventure extraordinaire de la radio a été juste émaillé de toutes ces saisies. Je rappelle aussi que Contact a été saisi une quinzaine de fois par la RTT, ancien Belgacom, qui contrôlait les ondes. On émettait de trop, on n'était pas à notre place, etc. J'ai une petite anecdote, si vous voulez bien. Lorsqu'on était saisi et qu'on s'apprêtait à être saisi, nous avions des amis à la RTT, donc à Belgacom, qui contrôlaient le spectre et qui nous appelaient pour nous dire « Attention, vous allez être saisis ». Ça, c'était pas au début, hein, c'était à la fin. À la fin de ces saisies. « Vous allez être saisis ». Monsieur Sauvenière et ses gardes mobiles, Monsieur Sauvenière, qui était celui qui, effectivement, à la RTT, l'IBPT aujourd'hui, le contrôle du spectre, était celui qui menait la bagarre. Monsieur Sauvenière et ses amis arrivent, avec leur camionnette et autres. Nous, on avait chacun un rôle. Les uns ou les autres devaient s'occuper de platines, de tables de mixage, de micros, et on avait chacun notre chemin pour fuir. Et moi, mon chemin, c'était, je devais emporter une platine, et je devais filer par la fenêtre. Et donc, ça s'est reproduit à quelques reprises, et c'était vraiment réglé comme du papier à musique. On avait un de nos amis qui nous appelait, « Attention, vous allez être saisis ». Et puis chacun s'éparpillait dans la nature avec le matériel. Une fois qu'ils étaient partis, hop, on revenait pour pouvoir remettre le matériel en place. Et juste pour le petit clin d'œil, au moment où j'ai quitté Contact, pardon, en 85, au moment où je quitte Contact, Francis Lemaire, qui n'était pas celui, qui était vraiment un gars extraordinaire, mais qui n'était pas celui le plus généreux possible, me dit « Écoute, fils, parce qu'il appelait beaucoup de gens « fils », les gens qui n'aimaient bien. « Écoute, fils, tu vois cette table de mixage-là ? Eh bien, celle avec laquelle je partais, elle est pour toi. » Et je l'ai toujours. Cette platine, je devais partir avec cette platine. Cette platine et cette 1200 Technics, elle est toujours à la maison. Donc cette platine est là, ben, 40, je sais pas, on est 80, on est 2021, elle a 40 ans, quoi. Donc cette platine a 40 ans et elle est le symbole, pour moi, de la piraterie et du côté rebelle. Et qu'il ne faut jamais accepter les choses si elles ne sont pas en phase avec vos valeurs. Et donc c'est pour ça que je respecte aussi les gens de l'ELO, c'est qu'ils respectaient leurs valeurs et qu'ils estimaient qu'on était le grand démon. Et donc ils nous ont brouillés, mais ça fait partie aujourd'hui de l'histoire.